Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
Radio Rosanna Pipadino.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
C'est assez particulier parce qu'on est, autogéré. Chaque personne qui emménage, on lui propose à son arrivée de participer.
Savez-vous où nous sommes là? Nous sommes dans un espace de co-living. Une cinquantaine de personnes vivent là. C'est comme la coloc en plus chic. Vous me direz, bah oui, c'est un peu ça. En plus chic, en plus riche, en plus pensé aussi. Mais le concept reste le même. Ça se passe en Suède, à Stockholm. Et ce sera l'escale reportage d'Un jour dans le monde ce soir. On vous fera visiter sous les radars et Amélie Perrier. Vous l'avez entendu au Canada, aux Philippines et en Serbie. 18h en Serbie, 18h50 le cinéma en VO. Au Portugal, aujourd'hui, 11 fois Fatima. C'est le titre du film présenté par Corinne Pellissier. Puis 18h55, Le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Et Bojo, Boris Johnson qui a lancé sa campagne pour remplacer Theresa May, repousser le Brexit, c'est échoué. Voilà pour sa première déclaration, sa première phrase. Avant cela, c'est à Hong Kong que nous allons. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Sébastien Veil.
Bonsoir.
Vous êtes historien de la Chine contemporaine, directeur d'études à l'EHESS. C'est avec vous qu'on va essayer de regarder cette journée très particulière à Hong Kong, trois jours après cette grande manifestation monstre de dimanche. Alors, il n'y a pas eu de débat parlementaire finalement aujourd'hui, mais une répression qui peut-être d'ailleurs se poursuit au fil de la journée. Pire violence politique depuis la rétrocession de la Chine, dit-on. Le message envoyé aux manifestants a été particulièrement clair, non? Est-ce que c'est comme ça qu'on l'interprète?
Il y a des signaux un peu contradictoires aujourd'hui. Mmh. C'est encore difficile de tirer des conclusions. C'est vrai que donc la police a essayé de déloger les manifestants qui étaient campés autour du Parlement et dans d'autres grandes artères à côté des bureaux politiques, enfin du chef de l'exécutif, etc. La chef de l'exécutif est apparue à la télévision. Elle a versé une larme en disant qu'elle s'était sacrifiée pour Hong Kong. Donc, je dirais que là, c'est un petit peu contradictoire pour l'instant.
On va en venir.
Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de concession immédiate.
On va y venir à cette femme, à ce qu'elle est, quel est le rôle qu'elle joue. Effectivement, la loi d'extradition est repoussée. Elle est repoussée sine die. Mais du coup, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il faut craindre en gros un retour de bâton qui serait plus fort? Parce que au bout du compte, est-ce qu'on imagine la Chine céder sur ce point-là particulièrement?
C'est encore très difficile. C'est pour ça que je disais qu'on est encore un peu dans le flou. Alors il y a un article dans le FT qui cite des sources internes disant que cite des sources internes disant que cette loi n'a jamais été demandée par Pékin. Donc que ce serait une initiative de la chef de l'exécutif Carrie Lam.
Intéressant.
Et que éventuellement des responsables pékinois seraient prêts à céder sur la loi. Donc pour l'instant on n'y voit pas clair. Je dirais pas que l'examen a été reporté sine die.
Ouais.
Donc il a été reporté provisoirement de jour en jour. Donc pour demain, je crois que le LegCo sera fermé, le conseil législatif, il n'y aura pas de session. Mais je pense que le gouvernement estime toujours aujourd'hui qu'à la prochaine opportunité, la loi sera examinée.
Parce que j'allais vous demander pourquoi Pékin a voulu cette loi à ce moment-là, maintenant. Vous êtes en train de me dire que peut-être que Pékin ne l'a pas voulu. Quoi, c'est une espèce de manière de faire du zèle, c'est ça, de la part de Carrie Lam? Ce serait ça l'idée?
Oui, c'est possible. On ne voit jamais très clair dans les interactions entre le chef de l'exécutif de Hong Kong et Pékin, c'est vraiment une boîte noire de la politique hongkongaise. La chef de l'exécutif ne rendait compte réellement qu'à Pékin, même si dans la Constitution, elle est responsable à la fois devant les Hongkongais et devant Pékin. Mais comme elle n'est pas élue, il n'y a pas de mécanisme qui la relie aux Hongkongais. Donc, on ne sait jamais ce qui se passe entre elle et Pékin. Pourquoi aujourd'hui? Alors, le gouvernement a avancé l'idée en réponse à un fait divers, donc un Hongkongais qui est soupçonné d'avoir tué sa petite amie à Taïwan. Il est revenu à Hong Kong et il peut pas être jugé à Hong Kong pour des faits commis à Taïwan. Et il n'y a pas d'accord d'extradition. Néanmoins, selon les juristes, la plupart des juristes hongkongais estiment que dans l'état du droit, il est possible de procéder à une extradition dans un cas précis sans avoir de loi cadre. Mais néanmoins, le gouvernement a argué de cette raison pour avancer cette loi aujourd'hui.
Cette fameuse Carrie Lam dont on parle beaucoup, dont vous parlez, la chef du gouvernement de Hong Kong, qui semble-t-il est en entièrement vouée à Pékin. Qui c'est exactement? Comment on la définit, cette femme-là? Et d'où elle sort, en fait, au fond?
Donc, Carrie Lam, c'est une fonctionnaire coloniale. Ouais. Donc, elle a travaillé pendant 20 ans pour l'administration coloniale britannique. Elle s'est montrée efficace dans un certain nombre de situations. Donc ensuite, elle est devenue numéro 2 sous le chef de l'exécutif précédent, C.Y. Leung. Et elle a, C.Y. Leung a été confronté donc au mouvement des parapluies en 2014, grand mouvement de protestation pour davantage de démocratie. Et à ce moment-là, Carrie Lam a montré un visage sans céder sur le fond, a incarné une espèce de visage un peu plus doux sur la même ligne politique. Et donc, quand Pékin a décidé de ne pas donner de second mandat à C.Y. Leung parce que, justement, ils estimaient peut-être qu'il polarisait trop la société hongkongaise, l'idée a été que Carrie Lam conduirait la même politique, mais de façon plus douce, plus à l'écoute de la société hongkongaise.
Mais depuis, on a l'impression qu'elle s'est radicalisée, cette femme, qu'elle est plus rude, qu'elle est plus dans la ligne de son prédécesseur, finalement, qu'elle ne l'a été ou pas?
Voilà, disons que elle s'est pas vraiment radicalisée, je dirais. Elle a quand même toujours, sur le fond, elle a jamais vraiment montré de divergence avec son prédécesseur. C'est elle qui avait conduit le fameux débat avec les représentants des associations étudiantes pendant le mouvement des parapluies. Il y avait eu un seul débat télévisé. Elle s'était montrée très très intransigeante sur le fond, même si sur la forme, elle a accepté de débattre ce que le numéro 1 de Hong Kong n'a pas accepté. Mais donc je dirais que c'est un peu dans la continuité. Elle est intransigeante sur le fond et elle essaye de... Voilà, elle est apparue à la télévision en versant une larme. Donc, elle essaye de mettre en avant son... Oui, je sais pas, où elle essaye de jouer de son côté féminin, ou enfin souvent elle a dit, ça c'est vraiment le côté très paternaliste colonial, maternaliste, donc elle a dit en tant que mère, je peux pas toujours donner à mes enfants tout ce qu'ils demandent. Voilà.
Mais est-ce que c'est aussi un fusible, au fond, Carrie Lam? C'est-à-dire que si à un moment il faut remettre ces gens dans leur boîte, comme ça avait été le cas en 2014, on y viendra un petit peu, la première à sauter, ce sera elle, au fond. Est-ce que c'est ça aussi rôle à Carrie Lam?
Pékin ne souhaite pas avoir de fusible immédiat comme ça. Enfin, donc Pékin n'aime pas, réagir sous le coup de la rue. Ça se passe toujours dans un second temps. Effectivement, au moment où elle voudra avoir un second mandat, les chefs de l'exécutif peuvent avoir deux mandats à Hong Kong, et il est quand même assez amusant de constater qu'aucun depuis la rétrocession n'a fini deux mandats. Donc, si H. Tung a commencé son deuxième mandat, il l'a pas fini à cause d'une protestation très similaire en 2003 sur la loi, projet de loi portant sa sécurité nationale. Et le problème en fait est structurel, c'est-à-dire que il y a un refus d'introduire plus de je dis pas la démocratie intégrale, puisque ça n'a jamais été le cas sous les Britanniques, donc les Chinois ont beau jeu de dire pourquoi au fond est-ce que nous on introduirait un système démocratique alors que les Britanniques l'ont pas fait en 150 ans, mais plus de réactivité démocratique ou de transparence aux revendications de la société. Si on n'introduit pas ça, ça sera toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on sera toujours dans la boîte noire, on sait pas quel jeu joue le chef de l'exécutif.
Mais au fond, vous l'avez rappelé, 2003, 2014, 2019, est-ce que Hong Kong a toujours été Hong Kong la turbulente depuis la rétrocession de 1997? On va rappeler quand même que théoriquement la vraie rétrocession, c'est 2047, ça laisse une certaine marge, mais est-ce qu'on n'est pas là devant Pékin qui perd aussi patience devant cette turbulence qui est finalement assez récurrente et régulière?
Oui, Hong Kong a une longue histoire de, malgré l'appellation, le jugement trop hâtif estimant que les Hongkongais étaient dépolitisés sous l'époque coloniale. On peut pas vraiment dire ça. Hong Kong a toujours connu beaucoup de mouvements sociaux, y compris des mouvements anticoloniaux dans les années 60-70. Et le mouvement démocratique a des liens avec le mouvement anticolonial. Alors c'est pas une filiation simple, parce que bien bien sûr, Pékin se place toujours du côté du mouvement anticolonial pour dire que finalement, donc c'est eux qui ont restauré la souveraineté de Hong Kong. Mais il y a des liens très forts. Le mouvement démocratique, au départ, est sorti de cette histoire-là. Donc, les Hongkongais n'ont jamais eu la démocratie, mais ils ont toujours compensé cette absence de système démocratique par un engagement très fort et dans la rue au besoin.
Alors, en 2014, ça s'appelait le mouvement des parapluies. La révolution des parapluies, on avait employé ce terme de révolution aussi, qui a duré 2 mois, qui a été très médiatisé, assez impressionnant au fond, mais finalement réprimé. Et puis, ils n'ont rien obtenu, les étudiants de 2014. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Est-ce que ce sont les mêmes, au fond, qui sont là à nouveau? Est-ce que le mouvement a grossi? Et ces mêmes-là, est-ce qu'ils sont plus radicalisés encore qu'ils l'étaient en 2014?
Je dirais pas que la révolution des parapluies ou le mouvement des parapluies n'a absolument rien obtenu. Ils ont voulu refuser le projet de loi donc piloté par Pékin, qui consistait à entériner un système où le chef de l'exécutif serait élu au suffrage universel, mais parmi des candidats choisis par Pékin. Mmh. Donc ça, les Hongkongais n'en voulaient pas parce que c'était une façon, dans la loi fondamentale de Hong Kong qui a été adoptée en 97, il est inscrit que le système doit se démocratiser progressivement. Et donc si cette loi avait été votée, Pékin était quitte de ses obligations. Et c'est ça que les Hongkongais n'ont pas voulu. Et donc, malgré tout, ce projet a été refusé. Donc ça a été quand même grâce au mouvement des parapluies. Bien sûr, après, il y a eu quand même une grande insatisfaction de ne pas avoir obtenu un système plus démocratique.
Et on puis voit... Il y a eu de la prison, etc.
Une attitude très agressive du ministère de la Justice qui a poursuivi en justice et fait appel de façon répétée à toutes les peines non carcérales. Le parquet a fait appel. Il y a un sentiment effectivement d'insatisfaction, et donc c'est la continuité, c'est les suivants, ceux qui étaient au lycée à l'époque.
Parce que on a vu aujourd'hui fermeture des commerces, étudiants en grève, évidemment ça pour le coup, effectivement vous le disiez, c'est les mêmes, les employés de compagnies aériennes, des juristes, des journalistes, on a l'impression que le profil est très élargi en fait, ou plus élargi.
C'est encore difficile de dire, voilà, mais donc cette marche de 1 million de personnes, 1,03 millions de personnes
sur 7 millions
dimanche dernier. Ouais. Voilà, donc 15% de la population, c'est quand même assez difficile à imaginer dans des conditions climatiques quand même assez rudes, de chaleur et d'humidité, et donc avec la police qui tient étroitement les rues. Il y a des personnes, y compris des personnes âgées ou des personnes malades ou en fauteuil roulant, etc., qui ont défilé pendant 6 heures, 8 heures par 30-35 degrés. Donc c'est vraiment pas rien. Donc là, je dirais que par rapport à 2014, il y a un facteur supplémentaire qui est que c'est pas simplement la démocratie, c'est l'idée que la prospérité économique de Hong Kong est en jeu, parce que ça peut remettre en cause son statut de centre des affaires pour l'Asie.
Et ça, quand même, est-ce que ça fait réfléchir Pékin? C'est toujours la grande question que se pose Pékin de toute façon, entre ouverture et économie, mais là, quand même, est-ce qu'il y a un gros risque qui fait que Pékin pourrait, si ce n'est reculer, en tout cas, ne pas y aller trop fort dans la répression à Hong Kong?
Pékin écoute toujours, enfin, Pékin a ses propres mécanismes de consultation et d'écoute qui sont pas des mécanismes transparents ou d'institutions démocratiques, mais Pékin écoute les forces pro-Pékin à Hong Kong. Donc effectivement, s'il y a une réaction massive des milieux d'affaires pro-Pékin, des différents groupes, disons, patriotiques à Hong Kong, bien sûr, Pékin peut trouver des moyens de négocier une sortie de ce projet. Mmh. Effectivement, il y a quand même une opposition des milieux d'affaires et aussi de la communauté internationale qui, sur le mouvement des parapluies, a soutenu en principe, mais c'est quand même les affaires internes, c'est-à-dire l'organisation de Hong Kong. Bon, il n'est pas très surprenant que les pays étrangers n'interviennent pas sur ce sujet-là. Mmh. Mais sur la loi d'extradition, elle menace directement les ressortissants étrangers de passage à Hong Kong. Donc les chambres de commerce étrangères, les gouvernements étrangers ont aussi formulé leurs inquiétudes.
Vous parliez de communauté internationale. Est-ce que la guerre commerciale avec les États-Unis, par exemple, pèse son poids aussi dans ce qui se passe en ce moment à Hong Kong?
Voilà, donc les Hongkongais, je dirais, essayent de ne pas être pris en otage entre Pékin et les États-Unis. Il y a le fait, effectivement, que, avec cette administration américaine quand même assez imprévisible, certains Hongkongais redoutent qu'il y ait des représailles qui seraient dirigées contre Pékin, mais qui en réalité pénaliseraient aussi les Hongkongais. Donc le statut spécifique qu'a Hong Kong vis-à-vis de la loi américaine, donc en vertu d'un acte législatif spécifique du Congrès, pourrait être remis en cause pour pour pénaliser en guise de représailles, mais des représailles de ce type menaceraient justement le statut de centre financier et de centre des affaires de Hong Kong. Et donc ça inquiète beaucoup les Hongkongais.
Une dernière chose, Sébastien Weck, si ce texte finissait par passer, quelle que soit la manière et quel que soit le moment, certains disent que ce serait au fond symboliquement la fin du double système, même s'il est censé perdurer jusqu'en 2047. Est-ce que effectivement, c'est aussi votre lecture des choses, si cette loi symbolique passe, c'est la fin du double système?
Il faut jamais donc dire que c'est la fin.
Un seul pays.
Il faut voir exactement les dispositions concrètes de la loi. Il y a déjà des concessions qui ont été faites. Il y aura peut-être d'autres concessions. Ça sera une érosion supplémentaire. Mmh. Il y a une série d'érosions de l'autonomie élevée de Hong Kong garantie dans la loi fondamentale, donc qui a été remise en cause par petits bouts de façon répétée. Ça serait un pas supplémentaire. Ça serait pas, je dirais pas que ça serait absolument la fin.
À suivre, en tout cas, de très très près. Merci beaucoup, Sébastien Weck, historien de la Chine contemporaine, directeur d'études à l'EHESS.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe à Stockholm, tiens, dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de colloque pour riches. Le concept a été poussé assez loin, on appelle ça le co-living, et vous verrez comment ça marche, c'est-à-dire droit à la suédoise. Sous les radars est Amélie Perry avec des sacs plastiques honteux au Canada, vous verrez ce que ça veut dire, et un surplus de mangue aux Philippines. Le cinéma en VO est Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir.
Un film portugais, 11 fois Fatima. Ça use les souliers.
Exactement. C'est un film surtout qui pose la question de la foi à l'épreuve du groupe et du quotidien. Comment marcher 40 km tous les jours, avoir mal aux pieds, ne pas dormir et ne pas craquer surtout.
Et on verra ça ensemble, le monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Ça use aussi, hein, d'une certaine façon. Bojo, Boris Johnson est entré en campagne, c'est parti.
Oui, c'est le Trump au petit pied. Il ne plaît guère en Europe. C'est pour ça qu'il serait logique de le voir gagner.
Allez, à tout de suite. Jean-Marc, on reste ensemble. Le tour de la planète continue. Il passe par l'Irlande du Nord. Van Morrison, Moondance sur France Inter.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
J'ai cru que c'était une reprise, je ne reconnaissais pas la voix de Van Morrison, non mais sérieusement. Enfin bref, ça s'appelle Moondance, c'est Amélie Perrier, et là, sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et Amélie, on pourrait appeler ça une forme de name and shame, comme
oui,
on dit.
Oui, d'habitude, vous savez, le name and shame, c'est pour dénoncer les mauvaises pratiques des entreprises. On les nomme publiquement, comme ce que vient de faire le gouvernement, par exemple, avec les grandes chaînes de fast-food, pour les obliger à mieux trier et recycler leurs tonnes d'emballages. Et bien là, un supermarché au Canada a une autre idée pour inciter ses clients à demander moins de sacs plastiques à la caisse. East West Market, c'est le nom de cette épicerie asiatique et bio à Vancouver. Elle a personnalisé ses sachets. On peut lire dessus ce genre de fausses réclames. Pommade antiverru, Dr. Tooth, vente en gros. Ou encore dans l'étrange royaume de la vidéo pour adultes. Et puis toujours très sympathique, la coopérative des soins du côlon. Alors, est-ce que vous sortiriez dans la rue, Fabienne, avec ce genre de sachets en plastique?
Ça va devenir collector.
Ouais, mais c'est pas évident quand même. L'idée, c'est de rendre gênant, honteux les accros aux sacs à usage unique. Une bonne dose de honte pour ne pas oublier son cabas la prochaine fois. Alors, le revers de la médaille, vous le disiez, Fabienne, c'est que ces sacs, aux typographies assez vintage et aux réclames autant gênantes qu'amusantes, sont en train de devenir collector. Alors, je me demande, dit celui-ci, s'ils vont en créer encore plus, car tout le monde va vouloir les collectionner. Et puis l'autre cliente, là, elle dit, je suis sur le point d'aller en chercher un. Oh mince, c'est pas du tout ce qu'on est censé faire. Ok, tant pis, je vais en chercher un. Le propriétaire du supermarché de Vancouver en a commandé 1 000 000. C'est la consommation de ses clients habituellement pour 2 semaines. On ne sait pas s'il poursuivra l'expérience. Justin Trudeau, le premier ministre, vient de promettre que son pays interdirait le plastique à usage unique en 2021, prenant exemple sur l'Europe. Mm-hmm. À l'échelle de la planète, il faut quand même rappeler que 9 millions de sacs plastiques finissent chaque année jetés dans les océans.
Voilà, y compris ceux sur lesquels il y a marqué n'importe quoi. Les Philippines croulent sous les déchets, ça on en a déjà parlé longuement ici Amélie, mais aussi sous un fardeau surprenant en ce moment.
Oui, 2 millions de mangues, oui le fruit, la mangue en surabondance.
Mango, 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 mango.
Oui, j'avais envie d'écouter ça un peu. Voilà. Ça s'appelle Mango, Mango, Mango. Et c'est l'une des conséquences d'El Niño, le phénomène climatique qui apporte parfois des épisodes de chaleur et de sécheresse exceptionnelles. Conséquence, des mangues. Les manguiers ont donné beaucoup plus de fruits que d'habitude sur l'île de Luçon. Mais c'est un problème pour les producteurs. La surproduction va s'accompagner d'une chute des prix. Le kilo est déjà passé de 58 à 25 pesos. Et le ministre de l'Agriculture doit réagir vite avant tout ne pourrisse, 2 semaines environ pour réagir. Voilà, un mango festival est organisé. Le ministre est invité là sur tous les plateaux télé pour présenter les animations. 1 000 000 de mangues ont été envoyées ainsi à Manille, la capitale, et des stands installés tout autour de Manille avec des prix bas et des réductions pour ceux qui achètent en gros. Le ministère lance aussi des cours de cuisine. Ça, c'est pour vous, Fabienne, pour apprendre à savourer la mangue matin, midi et soir, hein, en salé, en sucré. Et puis, des producteurs de l'île de Luçon, eux, ont réagi de manière moins mercantile. Ils ont donné leur mangue gratuitement, des sacs en libre service à l'entrée des exploitations. Et pour finir d'écouler les stocks, eh bien on compte sur les clients à l'étranger, au Japon, à Hong Kong ou à Dubaï, où l'on ne devrait pas avoir de mal à vendre ces fruits devenus bon marché.
Allez, nous allons en Serbie. Là, ce ne sont pas les mangues qui manquent, ce sont les cigognes qui ont leur festival.
Oui, la fête vient d'avoir lieu à Taras, un village de Vojvodine dans le nord du pays. La cigogne est le symbole de Taras, car c'est là que l'on compte le plus de couples de ces oiseaux migrateurs dans le pays. Car aussi, on est un peu romantique à Taras, comme cette membre d'une association de protection.
Alors elle nous dit, les cigognes blanches ont la particularité de rester en couple très longtemps. C'est la raison pour laquelle elles sont réputées.
Et puis certains croient aussi qu'elles amènent les bébés. Et nous, à Taras, on y croit aussi. Les cigognes qui apportent les bébés. Oui, oui,
oui, bien sûr, Amélie.
Alors le festival vient d'avoir lieu avec des concours de poésie. Bon, ça vous concerne pas trop, Fabienne. Et des ateliers éducatifs, pourquoi pas. Là, c'est pour sensibiliser toute la population à la protection des cigognes. Une histoire d'amour donc entre ces oiseaux, toujours au rendez-vous du festival.
Très bien. Cette âme romantique d'Amélie Perrier, il va falloir que ça cesse. Allez, à demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mexica. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo, Beyrouth, France Inter.
Et c'est en Suède que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir à Stockholm, où je vous emmène découvrir le co-living. Alors imaginez-vous à plusieurs, genre très nombreux, 20, 40, 50 personnes parfois, vous partagez tous un immeuble ou une très grande maison. Rien à voir avec l'époque communauté hippie, on n'est pas du tout en rond en train de faire tourner un joint, c'est beaucoup plus cosy. Chacun sa chambre, chacun sa salle de bain le plus souvent, mais le salon, la salle à manger, le bureau, la buanderie, tout cela est un espace commun. Bonsoir Frédéric Faux.
Bonsoir.
Frédéric à Stockholm pour Un jour dans le monde. Au fond, ça ressemble à une coloc pour riches, ce que vous allez nous raconter. Vous nous emmenez au K9, où vivent plus de 50 personnes. On n'est pas dans un quartier pauvre.
Effectivement, nous sommes à deux pas de l'ambassade de France à Stockholm, avec un grand parc, des immeubles en pierre de taille et ce K9 au numéro 9 donc. C'est Raphaël, un ingénieur venu de la Réunion, qui nous ouvre la porte.
Bienvenue à la maison. Et cet étage-là, c'est le premier, donc c'est celui où tout le monde est rassemblé pour travailler ensemble. Et puis, il y a des espaces communs aussi dans les autres étages, mais ils sont plus réduits. Donc il y a 50 personnes qui viennent quand il y a les fêtes. Donc là, vous êtes dans la cuisine. Alors il y a un espace salon avec un écran home cinéma, 4 tables de travail. Il y a des plantes. Je suis celui qui est responsable des plantes. Donc tous les samedis matin, je fais mon tour et j'arrose les plantes de la maison. Il y a toujours des gens qui font énormément de choses. Chacun a des emplois qui sont complètement différents.
Je suis Cindy, je viens de Finlande.
Moi, c'est Mohamed, je viens du Maroc, je suis en train de monter une start-up en Suède.
Mon nom est Jonathan, moitié suédois, moitié érythréen, et je fais ma thèse ici.
Alors ça, c'est par contre, il y a une règle, quand quelqu'un a des écouteurs, il ne faut pas le déranger, donc on ne va pas déranger en dehors.
Et c'est comme ça à chaque étage dans cet immeuble où vivent 54 locataires. Une moitié de Scandinaves, une autre moitié qui vient du monde entier. Beaucoup de jeunes créateurs de start-up, mais aussi des médecins, des chercheurs, des spécialistes de la finance ou une mère de famille avec sa fille danseuse. Une vie commune qui a ses contraintes bien sûr, mais dont les habitants du K9 ne peuvent plus se passer. Comme Nivadita, une indienne installée à Stockholm, qui est partie quelques jours et vient juste de franchir la porte du 4e étage avec sa valise.
Je suis juste partie 3-4 jours, mais j'ai l'impression d'être partie un mois. D'habitude, je n'ai pas le mal du pays quand je voyage. Mais là, pour la première fois de ma vie, la maison m'a tellement manqué. Le premier jour, je me suis dit, « Oh, je mange mon petit déjeuner toute seule, c'est si bizarre. »
Cet attachement au K9 s'explique en grande partie par le profil commun des habitants, qui sont de jeunes adultes entrant dans la vie active, qui ont les moyens de vivre là. Les locataires sont recrutés après entretien et les loyers vont de 750 à 1400 euros par mois, selon que l'on partage sa chambre ou pas. Des prix comparables à ceux d'un petit studio à Stockholm. Les habitants du K9 s'en moquent. Ils ne sont pas là pour faire des économies, mais pour faire des rencontres. Des rencontres qui peuvent parfois changer leur vie, comme ce fut le cas de Raphaël.
Depuis que je suis arrivé ici, ma carrière professionnelle a évolué de façon considérable. Je suis à la fois ingénieur architecte et je travaille en tant qu'ingénieur. Donc, je commençais à devenir un ingénieur expérimenté. Mon salaire était très très bon. La difficulté quand on change, en passant d'ingénierie à l'architecture, c'est de changer de casquette, c'est pas vraiment évident. Et puis, en arrivant ici, les gens ont commencé à me dire « mais il va falloir que tu te bouges ». Maintenant, je travaille dans une start-up, je suis architecte en chef, je dessine des bâtiments de 200 logements tout seul. Il y a une juriste ici, il y a aussi un avocat, et du coup, ils ont regardé le contrat. Il y a quelqu'un d'autre qui travaille aussi dans le business pour monter des boîtes. Du coup, quand on a des problèmes, finalement, on s'entraide les uns les autres. Oui, il y a une vraie vie amicale et communautaire, on est là les uns pour les autres.
Le quotidien du K9 est aussi rythmé par de nombreuses activités proposées à la communauté via une application dédiée. Tous les habitants du K9 le disent, la vie ici va à 100 à l'heure, ce qui nécessite une certaine organisation. Des règles, mais pas d'obligations, comme l'explique Morgane Oléron, une des plus anciennes résidentes.
C'est assez particulier parce qu'on est autogéré. Chaque personne qui emménage, on lui propose à son arrivée de participer. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à réparer, il y a toute la communication. Donc chacun, en fonction de son temps et de ses compétences, peut participer entre 1 heure à 5, 6, 7 heures par mois. Et puis après, on a des réunions une fois par mois où toutes les choses qui justement vont pas très bien sont réajustées, discutées, débattues Et voilà quoi, c'est comme ça qu'on vit.
And nobody besides him comes into the kitchen. Oh, you always get so excited when you hear like the door opens and you're like, oh, who is coming now? And then I'm like, no, nobody's coming.
Le plus difficile au K9, c'est finalement d'en partir. Mais que l'on vive en co-living ou en appartement, quand il s'agit de faire ses valises, c'est toujours la même histoire.
I erased this part. Oui, la cause numéro une, c'est l'amour qui fait que les gens partent, et puis des cœurs brisés. Mais il y a beaucoup de gens, oui, qui décident de fonder une famille, mais ces personnes-là ont énormément de mal à vivre juste à deux. Donc ils partagent un appartement, ou ils partagent une plus grande maison. Et les gens ont du mal, en fait, à retrouver une vie normale.
Les nostalgiques vont pouvoir bientôt se consoler car les résidents ont décidé de créer une association des anciens du K9.
Écoutez, en tout cas, ils ont l'air de bien rigoler entre eux. Allez, Frédéric Faux pour Un jour dans le monde, qui aussi, à sa manière, est une petite communauté. Merci beaucoup. J.S. Endura sur France Inter, saying goodbye. J.S. Endura dans Un jour dans le monde, on valide. Saying goodbye, c'est le titre.
3, 2, 1, letter. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jour.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Et dans le cinéma en VO, direction donc aujourd'hui le Portugal pour une longue marche de près de 400 km. C'est la distance qui sépare Vinaish et Fatima et que vont parcourir dans ce film 11 femmes qui ont décidé d'entamer le fameux pèlerinage de Fatima. Le réalisateur, s'appelle João Canijo, j'espère que je le prononce à peu près correctement. Il les a suivis dans leur périple, comme si comme ça, me dit Corinne Pellissier, dites donc. Ça s'appelle donc 11 fois Fatima. Tiens, bande annonce d'abord.
Diz lá, quem está contra ti agora é? Quem é?
Eu quero que a gente vá todas juntas nesta peregrinação, que isto é um grupo.
Boa noite, Maria. Boa noite, minha.
Alors, Corinne, un gros plan sur la foi, mais surtout sur la vie en groupe. Mm-hmm. Et tout ça aurait très bien pu s'appeler 11 femmes au bord de la crise de nerfs.
Oui, alors c'est dommage, c'était pris par le voisin. Voilà, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est la confrontation entre le religieux et la vie en groupe, les grands principes et ce qu'on en fait au quotidien. João Canijo était parti au départ pour faire un documentaire, essayer de comprendre et montrer surtout ce qui animait ces femmes. Le pèlerinage de Fatima est un peu une tradition au Portugal, que vous soyez très pratiquant ou non. Et au cours de ce périple, eh bien, il s'est rendu compte que la réalité des dépassait bien souvent la fiction et a décidé de changer ses plans.
Tout ce qui se passe dans le film s'est passé, d'une façon ou d'une autre. Rien n'est provoqué. Il y a une des comédiennes qui ne croyait pas du tout à cette méthode-là, qui disait fermement qu'un personnage, c'est un personnage qui n'a rien à voir avec moi. Eh bien, c'est le personnage qui ressemble plus à la comédienne, c'est celui-là. Et sa vraie nature qu'elle essaie de camoufler dans la vie, le masque, il tombe.
Le masque tombe, sûrement une histoire de Dieu là aussi. Alors un travail très 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 méthodique, Corinne, parce que toutes ces femmes ont effectué trois fois le même pèlerinage. Finalement, une première fois d'abord pour rencontrer de vrais pèlerins, ensuite une deuxième fois en groupe filmé 24 heures sur 24 pour nourrir la documentation du film, et une troisième fois pour le tournage, toutes comédiennes évidemment.
Voilà, et parmi elles, il y a Rita Blanco, comédienne très célèbre au Portugal, moult fois récompensée, que vous avez vue peut-être dans La Cage Dorée avec Roland Giraud, Chantal Lobby. Elle a beaucoup tourné depuis 35 ans avec João Canijo. Elle a trouvé sur ce coup-là un petit peu pervers. Elle nous l'a confié. Ils en rient beaucoup ensemble. Les conditions de tournage, il faut dire, étaient très difficiles. Lever 4 heures tous les jours, 30 km de marche, parfois 60, le manque de moyens, les bobos, et pourtant le sentiment d'avoir vécu quelque chose de fort et de très profond.
Moi, je ne suis pas croyante, mais j'ai compris beaucoup plus tard l'important que ce film avait été pour moi. Parce que j'ai eu même des moments de révolte. C'était trop dur. C'était un travail très profond. Et plus tard, j'ai compris que c'était peut-être le travail plus profond que j'avais fait. Chaque jour, on faisait une espèce de sommaire de ce qui s'était passé pour ne pas oublier les choses qui nous paraissaient importantes, le quotidien du pèlerinage, avec les conditions d'un vrai pèlerinage. Et je crois que João a voulu faire un film libre, où il y a l'espace du spectateur pour choisir la religiosité, la transcendance, la condition humaine, les personnages, tout.
Alors le résultat est quand même assez âpre et peut déstabiliser certains avec de longs plans séquences qui viennent souligner toute l'intensité de l'effort. On est vraiment pendant tout le film aux côtés de ces femmes qui nous montrent un visage souvent oublié du Portugal, en tout cas assez loin de la carte postale de vacances.
Allez, 11 fois Fatima, ça sort aujourd'hui de João, parce que c'est comme ça que je l'ai entendu prononcer. Voilà, lui-même au cinéma ce mercredi. Merci Corinne.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
Comme il se la joue, Jean-Marc Four, le monde à l'envers. Jean-Marc, la campagne vient de débuter au sein du Parti conservateur britannique, donc pour succéder à Theresa May. La première sélection des députés, c'est demain. Un choix définitif des militants d'ici au 20 juillet, ça laisse un peu de marge. D'ici là, parmi les 10 candidats, le favori, Boris Johnson, fait figure d'épouvantail pour les Européens. Et donc, vous, comme vous prenez tout à l'envers, c'est votre métier, vous dites le contraire. Vive, vive Boris Johnson, alors.
Mais oui, pour une fois, messieurs les Anglais, à défaut de tirer les premiers, soyez cohérent, les députés conservateurs se doivent, s'ils sont logiques, de favoriser la candidature de Bojo, comme on le surnomme. Pourquoi ? C'est tout simple. Il y a 3 ans, Boris Johnson a été un leader de la campagne pour le Brexit. Les Britanniques ont voté, on le sait, pour la sortie de l'Europe. Et depuis, ils attendent. Donc la cohérence politique, c'est de voir le Brexit enfin géré par un homme qui le désire. Il serait temps, que ça nous plaise ou non, ça coule de source quand même. Il y a une deuxième raison qui relève aussi de la cohérence politique. Après 3 années de cacophonie façon Theresa May, le parti conservateur est aux abois, seulement 5e aux dernières européennes. Il est menacé quasiment de disparition. Donc les conservateurs doivent au plus vite reconquérir leurs électeurs qui sont en train d'être avalés par le Brexit Party de Nigel Farage. Leur seule chance d'y parvenir, c'est un positionnement anti-Europe et un positionnement de droite, par exemple sur les impôts. Et là encore, Boris Johnson a le meilleur profil, le plus en adéquation avec le disque dur de l'électorat conservateur, les Anglais âgés, plutôt aisés. C'est une personnalité forte, contesté mais charismatique, un battant qui sait mener des combats électoraux. Puis ça serait pas la première fois d'ailleurs que les conservateurs choisissent une personnalité atypique dans leur histoire, et avec Churchill ou avec Thatcher, ça leur avait plutôt porté chance électoralement.
Mais c'est quand même une personnalité complètement incontrôlable en fait, presque inquiétante. Hein.
Ben oui, mais pardon, mais là aussi c'est cohérent.
Enfin, on dirait, on en connaît d'autres.
Mais oui, c'est ça, c'est en adéquation qu'on le veuille ou non avec l'air du temps. C'est vrai, Bojo doit son surnom au personnage du clown Bozo. L'ancien maire de Londres a ses humeurs, il peut dire tout et son contraire, sa vie privée est chaotique, il aime distiller les fausses informations, en particulier sur l'Europe. Il fait dans l'excès, il a déjà comparé l'Union Européenne au Troisième Reich nazi quand même. Il fait souvent preuve d'amateurisme dans sa connaissance des dossiers, il cultive un nationalisme démagogique et donc, ça vous rappelle pas quelqu'un, voilà, Trump, vous avez deviné, et d'ailleurs plus largement tous les leaders populistes qui ont le vent dans le dos sur la planète. L'époque est aux dirigeants forts en gueule qui font de la politique comme on joue au poker. Ça plaît aux électeurs, ça plaît aussi en Grande-Bretagne à toute une partie de la presse populaire. Alors oui, à l'inverse, ça déplaît aux dirigeants européens qui voient Boris Johnson comme un inconséquent. Mais ce type de critique, en fait, cette mauvaise image en Europe, c'est un argument de plus pour sa campagne. C'est ça qu'il faut comprendre. Regardez, les élites bien pensantes ne nous aiment pas. Pouvoir dire ça, c'est l'une des meilleures cartes des démagogues vis-à-vis de leurs électeurs. Donc là encore, le choix Boris Johnson, il est logique.
Donc je vous ai compris, tout ça c'est logique, mais sur le fond, Jean-Marc, ça risque quand même d'être la cata, y compris pour l'Europe.
Alors c'est possible, puisque Bojo brandit la menace du no deal, cette fameuse sortie sans accord de l'Union européenne, avec toutes les incertitudes économiques à la clé que l'on sait. Mais on peut, là aussi, essayer de voir les choses du bon côté. Par exemple, Bojo au pouvoir à Londres, ça peut être une publicité vivante pour l'Europe. L'incarnation d'un Royaume-Uni repoussoir, trop incontrôlable et farfelu, trop antisocial et anti-environnement. Et puis avec un leader aussi imprévisible, l'Europe, pour peu qu'elle se soit dotée d'ici là de dirigeants dignes de ce nom, ne rigolez pas, aurait beau jeu de fermer la porte à toute renégociation du Brexit d'ici à la nouvelle date limite du 31 octobre prochain. Donc ça serait un bon ciment pour l'Union européenne. Ce serait plus compliqué de refuser la discussion face à un Premier ministre plus modéré comme Jeremy Hunt, l'actuel ministre des Affaires étrangères britannique, rival le plus sérieux de Boris Johnson. Enfin, dernier effet en chaîne possible, la radicalité de Bojo sur le Brexit pourrait pousser l'Écosse à faire sécession, à préférer l'Europe au Royaume-Uni, et ça serait un séisme politique. Bon, je dis tout ça, c'est aussi un peu, je vous l'accorde, pour nous rassurer, parce que imaginez quand même les codes nucléaires britanniques en possession d'un homme aussi fantasque, c'est quand même un chouïa inquiétant.
Comme vous dites, on aura l'occasion d'en reparler probablement la semaine prochaine dans Un jour dans le monde, Le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, merci beaucoup. Nous, on reste ensemble comme tous les soirs pour Le téléphone sonne. Et juste avant, il y a Sébastien Paour pour Le journal.